Vous écoutez
RMC.
8h01, joyeux Noël. Vous êtes bien sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Pour le journal à 8h, présenté par Clara Gabillet. Bonjour Clara.
Bonjour Charles, bonjour à tous. Un paysage tout blanc en ce jour de Noël. La neige est tombée et avec beaucoup de joie chez ceux qui ont ouvert les volets ce matin. Noël sous 40 de fièvre pour de nombreux Français, par contre malades de la grippe, des médecins généralistes réquisitionnés dans les Bouches-du-Rhône pour désengorger les urgences. Et puis une loi ravive les tensions entre Paris et Alger. Loi pour criminaliser la colonisation. La France dénonce une initiative hostile.
C'est un beau cadeau de Noël pour de nombreux Français, de la neige à Noël.
Ouais, Noël particulièrement magique cette année pour tous ceux qui ont droit à ce beau spectacle de 2 à 3 cm tombés en pleine dans la nuit, notamment en Bretagne. Écoutez la joie de Valérie qui habite dans le Morbihan.
Il y a les plantes, bon, la neige sur les feuilles, j'ai une tonnelle, il y a de la neige sur le toit de la tonnelle. C'est rare, surtout en Bretagne. Ceux qui roulent seront moins contents, mais bon, on n'a pas de quoi faire de bonhomme de neige, hein, loin de là quand même. En ce moment, il y a tous les films de Noël qui passent depuis fin septembre, début octobre, tous les films de Noël où il y a de la neige à Noël tout le temps. Donc là, on est contents, on a de la neige aussi.
C'est le Noël le plus froid depuis 15 ans. Plusieurs préfectures ont activé le plan grand froid, des maraudes supplémentaires, l'ouverture de places d'hébergement. C'est notamment le cas en Ille-et-Vilaine, dans la Manche, dans le Bas-Rhin et le Haut-Rhin. De l'autre côté de la frontière alsacienne, justement, il neige aussi pour l'ouverture des cadeaux. Lucille Pascanet, vous êtes ce matin aux côtés d'une famille alsacienne à la frontière franco-allemande à Baden-Baden et vous avez assisté au déballage des cadeaux.
Oui, hein, les cadeaux viennent juste d'être déballés. Vous entendez peut-être Edouard est encore en train de jouer avec Edouard qui a 10 ans et qui est juste à côté de moi. Edouard, qu'est-ce que tu as eu comme cadeau ce matin?
Alors j'ai eu un Uno, j'ai eu 3 livres avec un livre d'Inoctag.
Avec un livre. Comment tu te sens? C'était dur ce matin d'attendre jusqu'à 8 heures pour ouvrir tes cadeaux?
Oui, beaucoup.
Beaucoup? Très bien. Est-ce que tu es content de ce que tu m'attends?
Très content.
Juste à côté, on a le papa qui est en train de regarder tous ces cadeaux qui sont à côté d'Edouard. Vous, comment vous vous sentez ce matin après avoir offert cette joie à votre fils?
On est arrivé au... Voilà, il y avait de l'excitation hier soir jusqu'à très tard. Et puis, il y a eu un réveil très matinal déjà ce matin où voilà, il me remuait dans le lit en me demandant « Papa, il est quelle heure ? Papa, il est quelle heure ?» Voilà, donc enfin l'instant magique est arrivé. Et c'est toujours un plaisir de faire plaisir à des enfants, tout simplement. Voilà, parce que ça fait partie de la vie. Et Noël, c'est ça, c'est ces moments magiques en famille et pour les enfants, quoi.
Oui, hein, là c'est un moment de bonheur et puis c'est que le début hein, de ce marathon de Noël puisque Edouard aura d'autres cadeaux un petit peu plus tard et là je crois comprendre qu'il va partir faire de la luge puisque ici il y a de la neige à Baden-Baden. Joyeux Noël à tous.
Joyeux Noël, merci beaucoup Lucille Pascanet en Allemagne pour RMC.
Quel bonheur, le réveillon, plusieurs agriculteurs l'ont passé eux sur les barrages.
Oui, les quelques-uns qu'il reste dans le sud-ouest, notamment l'emblématique blocage de l'A64 à Carbonne au sud de Toulouse, où une messe de Noël a même été célébrée hier sur l'autoroute. Bertrand Loup y était, il est éleveur de bovins et vice-président de la chambre d'agriculteurs de Haute-Garonne.
Des prêtres nous avaient contactés justement, ils s'étaient portés volontaires pour nous la tenir. Puis on est arrivé à 300, 400, 500 personnes qui sont arrivées hier soir. Certains sont restés avec nous toute la soirée, ont profité du banquet qu'on a organisé. On a vécu un grand moment de solidarité, de fraternité, tout ça sous un pont. Le soutien de la population nous montre qu'on est dans le vrai et que notre lutte pour notre territoire et pour notre agriculture locale, elle est justifiée. Donc, et là, justement, avoir encore plus de monde et puis cette fraternité, j'y reviens, hein, parce que sans ça, il n'y a rien, ça nous galvanise.
Bertrand Loup, éleveur de bovins, invité d'RMC ce matin. C'est une histoire qui semble tout droit sortie d'un conte de Noël. Une offre de reprise pour l'usine Brandt d'Orléans. Le groupe d'électroménager placé en liquidation judiciaire il y a 2 semaines. Hier, le patron de Thomson Computing a proposé de reprendre le site et de sauver 150 emplois sur les 350 de cette usine. Le maire d'Orléans s'en félicite déjà, mais le gouvernement, Thomas Becker, préfère temporiser.
Oui, avec déjà un rappel du calendrier. L'appel d'offres démarre en janvier. Oui, la proposition présentée hier à Orléans sera examinée, mais elle le sera Parmi d'autres, d'ailleurs, le ministre de l'Industrie, Sébastien Martin, a déjà reçu le patron de Thomson, Stéphane Français, mais en aucun cas, l'offre est tenue pour acquise. Il n'y a pas encore eu d'analyse approfondie. En coulisses, les services de Bercy reconnaissent qu'il n'y a pas, a priori, de réserve sur la santé financière de Thomson. Par contre, ils restent sceptiques sur l'électroménager. Peut-être que ce n'est pas l'avenir du site, glisse-t-on à Bercy, très refroidi par la liquidation de Brandt prononcée il y a 2 semaines. Si l'État reste prudent, c'est parce qu'il attend d'autres offres dans les semaines à venir, en rappelant qu'à la fin de la procédure, c'est le tribunal qui tranchera.
Thomas Becker, service politique d'RMC.
Et Stéphane Français, le patron de Thomson, qui promet de reprendre 150 emplois chez Brandt, sera mon invité dans un instant en direct sur RMC.
Des excuses officielles et des réparations, c'est ce que demande l'Algérie à la France pour l'avoir colonisée. Plus de 60 ans après son indépendance, le Parlement algérien a adopté à l'unanimité hier une loi qui criminalise cette colonisation. Caroline Renaud, les relations sont déjà glaciales entre les deux pays et ça ne va pas les réchauffer.
Pour Alger, l'État français est juridiquement responsable des crimes commis pendant la colonisation, crimes que la nouvelle loi liste, entre autres, exécutions extrajudiciaires, tortures, pillage des richesses, essais nucléaires, des dommages matériels et moraux que la France doit complètement indemniser, selon le Parlement algérien. Une demande surtout symbolique, puisque la loi n'a aucune portée internationale. Elle n'est donc pas contraignante pour la France, mais son adoption en pleine crise diplomatique entre les deux pays reste une initiative hostile aux yeux du ministère des Affaires étrangères français. Selon lui, la loi met à mal à la fois, je cite, « la volonté de reprise du dialogue franco-algérien et un travail serein sur les enjeux mémoriels ».
La grippe joue les troubles faits cette année. L'épidémie continue de s'intensifier partout en France et touche toutes les classes d'âge. Augmentation particulièrement forte chez les moins de 15 ans. Le pic attendu d'ici à début janvier, période particulièrement compliquée pour être malade car pendant les fêtes, une grande partie des cabinets médicaux sont fermés. Décision a donc été prise dans les Bouches-du-Rhône de réquisitionner des médecins généralistes à partir d'aujourd'hui. Philippine Boulet, pour éviter la saturation des urgences.
Oui, rien que la semaine dernière, la grippe a entraîné près de 2000 passages aux urgences dans la région PACA et 450 hospitalisations. Dans les Bouches-du-Rhône, les permanences de soins ne sont pas suffisamment assurées, notamment en raison des congés de fin d'année. Les 17 médecins réquisitionnés ont été choisis parce qu'ils n'ont aucune garde prévue l'année prochaine, précise l'ARS. Ils devront donc assurer une permanence jusqu'au 4 janvier. Cette décision provoque la colère d'une partie de la profession. Jean-Paul Hamon est président d'honneur de la Fédération des médecins de France.
Ces médecins-là sont sur le pont toute l'année et là on viendrait les réquisitionner, leur envoyer les gendarmes sans se préoccuper de leur situation familiale, sans se préoccuper de leur situation d'épuisement.
Les médecins qui refuseraient de se plier à cet arrêté s'exposent à une amende de 3 750 euros.
Précision de Philippine Boulet pour RMC.
Et puis pas de trêve de Noël pour la NBA.
Au contraire, une affiche de rêve pour Victor Wembanyama. Son équipe des Spurs affronte le Thunder d'Oklahoma City pour la deuxième fois cette semaine. Le Français qui s'est imposé comme une star du championnat est donc programmé ce soir 20h30 pour Noël. Une consécration pour finir l'année en beauté, Morgane Maury.
Après l'ouverture des cadeaux, les Américains réclament le meilleur de leur sport à la télé. En basket, c'est Victor Wembanyama face à la plus forte équipe du moment, Oklahoma City. Wemby a gonflé ses statistiques, 24 points et 12 rebonds de moyenne. Stephen Brun, membre de la Dream Team RMC.
On est plus dans l'expérimentation et on voit que le rôle de Victor, il est un peu plus centré sur ses qualités, c'est-à-dire dominant à l'intérieur. On est content de le revoir très bon et surtout on est très content de le voir dans une équipe compétitive. C'est ça qui nous manquait.
Après une thrombose à l'épaule la saison dernière, Wemby s'est blessé un mollet et depuis son retour, son équipe le ménage. Il est remplaçant, son implication ne change pas et son équipe gagne quand même pour sa troisième année. Il n'hésite plus à chambrer. Il y a quelques jours, il a affirmé qu'il serait le meilleur joueur de la Ligue lorsqu'il refoulerait les parquets.
Et les matchs de Noël sont souvent particuliers. Ils laissent parfois voir des performances hors normes. Je sais que Victor est très attaché à ça et je ne serais pas surpris d'une énorme performance de Victor Wembanyama, mais une énorme performance chiffrée sur un match de Noël, ça marque les esprits.
Une seule ombre le menace, celle d'une nouvelle blessure. S'il rate encore 6 matchs dans l'année, il ne sera plus éligible pour les récompenses individuelles en fin de saison.
Et puis le comité d'organisation de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, veut éviter les tribunes vides. Elle autorise désormais l'accès gratuit aux supporters environ 20 minutes après le coup d'envoi sur certains matchs.
C'était le journal de Clara Gabillet. Joyeux Noël, Clara.
Joyeux Noël.
Et à tout à l'heure pour un nouveau journal en direct sur RMC. On part tout de suite au 32-16. On fête Noël tous ensemble ce matin sur RMC. Je vois Joël qui nous appelle comptable dans la Drôme. C'est ça ? Bonjour Joël, joyeux Noël.
Oui, bonjour Charles, joyeux Noël à tout le monde.
Ben oui, comment ça va ce matin Joël ?
Eh bien, très bien, prête à aller skier.
Ah, vous êtes au ski, parce qu'il y a écrit Drôme sur ma fiche. Vous êtes en vacances au ski ?
Tout à fait, à Valfréjus, au-dessus de Modane, et on s'apprête à aller skier.
Ah mais génial. Et vous avez quand même réveillonné à la neige hier soir ?
Oui, tout à fait, à l'hôtel, tranquillement.
À l'hôtel, en famille, bah, génial. Et bien, quel voilà. Plus beau cadeau de Noël que d'aller skier ce matin. Vous avez eu le temps de vous faire 2-3 cadeaux quand même ?
Oui, on s'est échangé 2 petites bricoles. Enfin, nous, avec mon mari, c'était le cadeau, c'était le séjour au ski.
Oui.
Et on a échangé deux petits cadeaux avec les garçons qui sont avec nous.
Ok, super. Et donc, du ski en famille, aujourd'hui, il y a de la neige là, à Valfréjus ?
Il y a un petit peu de neige et puis là, il floconne.
Ah, bah, il y en aura un peu plus du coup aujourd'hui. Il faut voir le verre à moitié plein. Mais c'est super d'être au ski en famille pour fêter Noël. Ça nous fait très plaisir de vous savoir en direct avec nous ce matin. Levez tôt quand même, bah oui, pour profiter des pistes, j'imagine, Joël.
Oui, tout à fait. Et avec l'agréable surprise de vous entendre ce matin.
Ah, bah oui, c'est l'autre surprise de Noël. Je suis là ce matin pour vous accompagner en direct. Et c'est un bonheur de vous entendre tous ce matin en direct au 32-16. Merci, Joël. Bon ski, bonne piste, bonne neige à toute la famille. Et joyeux Noël à vous. Vous faites comme Joël, racontez. Nous évidemment votre Noël ce matin, on est tous ensemble en direct sur RMC, mais tout de suite à 8h12, c'est l'heure de parler économie.
RMC, Apolline Matin,
le chiffre d'affaires.
Parce que Pierre Rondeau, notre économiste, lui aussi s'est levé tôt. Joyeux Noël d'abord.
Joyeux Noël,
Pierre. Et tiens, bah voilà un beau cadeau de Noël. De l'or.
Oui.
Oui, le cours de l'or bat des records. Sa valeur n'a jamais été aussi haute, Pierre.
Ah oui, c'est simple. C'est tout simplement du jamais vu. Hein. Rendez-vous compte, Charles. Sur toute l'année 2025, l'or a pris 70%. Hier, une once, hein, soit environ 122 grammes, s'échangeait à plus de 4500 euros. Pour se rendre compte de cet envol, l'année dernière, à la même période, l'once d'or ne valait que 2600 euros. Cette hausse suit d'ailleurs une tendance globale sur les métaux précieux, puisque l'argent et le cuivre connaissent aussi une envolée, tout comme le platine, tous à des niveaux historiques.
Et comment on explique ce phénomène ?
Alors, on a coutume de dire que l'or, tout comme les autres métaux précieux, est une valeur refuge, hein, et que lorsque l'économie ne tourne pas rond, ne va pas très bien, on se tourne vers l'or. Et effectivement, depuis quelques années, l'économie ne va pas très bien. Hein, on peut citer la crise des subprimes, en 2008, le cours monte à 575 euros. Crise et dette souveraine, on dépasse les 1000 euros. Brexit en 2016, pandémie, Covid-19, guerre en Ukraine, etc. etc. Et aujourd'hui, 4500 euros.
Oui, à chaque fois en fait, que l'économie déraille, le cours de l'or, lui, augmente. On devrait donc s'inquiéter à chaque fois qu'on voit que l'or flambe.
Alors, je ne voudrais pas plomber l'ambiance en ce jour de Noël, 25
bah
décembre.
Non, non.
Mais on pourrait quelque peu s'inquiéter. On a des conflits géopolitiques, notamment un nouveau entre les États-Unis et le Venezuela. Une diminution des taux d'intérêt qui risquerait de plomber les rendements des placements financiers. Des perspectives de croissance plutôt molles dans la plupart des pays européens. Des taux de chômage qui pourraient augmenter. C'est simple, les investisseurs ont peur et donc se tournent vers l'or. L'or, c'est concret, c'est palpable, c'est sûr. On apprécie sa faible volatilité, sa stabilité. Donc oui, à chaque fois que son cours progresse, c'est le signe que quelque chose ne va pas dans l'économie, que quelque chose inquiète. Donc peut-être que là, faudrait-il se tourner vers l'or.
Bah, merci pour toutes ces bonnes nouvelles en ce matin de Noël.
Voilà,
je vous
remercie
pas. Merci beaucoup, Pierre Rondeau. Il est 8h14 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et on va aller faire un tour sur le WhatsApp de l'émission avec Victor Pourchet. Que disent les messages ?
Eh bien déjà, beaucoup de joyeux Noël, évidemment. On a Fabien qui nous dit qu'il a passé le réveillon avec sa fille, mais qu'il avait vu un peu grand pour le repas. Dans ce cas-là, c'est du grand classique. On reprend tout et ça servira pour un bon repas ce midi. Il y a ceux aussi qui bossent. On part à Bordeaux avec David, livreur et porteur de presse. Les journaux seront bien distribués ce matin. Réveillon court, mais c'était bien quand même, nous dit-il. Et puis un petit coucou de Pierre le poissonnier d'RMC. Ah oui. Et puis sur les nouvelles sanctions pour les très grands excès de vitesse, à partir de lundi, ça devient un délit avec une peine à la clé potentielle de 3 mois de prison et 3750 euros d'amende. On a d'abord Sonia qui nous dit que pour elle, c'est exagéré. Les automobilistes, dit-elle, sont devenus des vaches à lait pour le gouvernement. Fred, lui, est plutôt pour. C'est même pas du tout assez dissuasif, ces nouvelles sanctions, selon lui. J'ai pas fini de me faire doubler à toute vitesse et avec des franchissements de lignes continues, nous dit-il. Vous continuez d'envoyer vos messages sur le WhatsApp 06 12 424 424.
Et à 8h15, dans un instant, on en vient à la surprise de Noël. L'entreprise Brand, qui pourrait être en partie sauvée, reprise. 150 postes pourraient être conservés sur le site d'Orléans. Ce repreneur, c'est vous, Stéphane Français. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le patron de Thomson Computing. Vous avez présenté hier cette offre de reprise malgré un certain scepticisme. Dans un instant, vous répondez justement aux sceptiques en direct sur RMC.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h17, bon réveil à tous, joyeux Noël sur RMC à la radio, RMC Story à la télé et dans ce studio ce matin, Stéphane Français, rebonjour, patron de Thomson Computing, entreprise d'informatique, et hier vous avez fait une annonce surprise, une offre de reprise partielle pour Brandt. Vous voulez reprendre une partie des salariés, 150 environ, sur le site d'Orléans. Pourtant, il y a quelques jours à peine, le tribunal de Nanterre plaçait Brandt en liquidation en expliquant que l'activité n'était plus viable économiquement. Autrement dit, plus possible d'être rentable en France en fabriquant de l'électroménager. Qu'est-ce que vous comptez faire pour relancer Brandt ?
Alors, évidemment, vous avez raison. Hein. Il y a une liquidation, donc il y aura un appel d'offres, il y aura des choix en fait qui seront opérés à ce moment-là par les liquidateurs. Nous, on a une offre en fait industrielle. On a une offre de reprise en fait des marques, une offre de reprise de l'activité évidemment historique, mais aussi une modernisation en fait de tout ce qui peut être proposé autour de Brandt, autour de De Dietrich. Vous saviez que De Dietrich, par exemple, faisait des voitures avant. Mmh. Donc c'est pas, vous voyez, que des fours. Et donc l'idée, c'est d'arriver sur les nouvelles technologies. L'avantage, c'est que moi, en venant de l'informatique, ça fait 30 ans que je suis dans la distribution. Je connais parfaitement le marché. Aujourd'hui, en fait, ce que je veux, c'est apporter en fait des lignes d'informatique à produire depuis Orléans. Donc ça fait un additionnel intéressant sous la marque Thomson. Évidemment aussi poursuivre vers les nouvelles technologies, les robots connectés qu'on est en train de développer, les lunettes connectées et les drones qui sont en développement également avec les produits anti-drones évidemment, puisque on parle de nouvelles technologies. Partout il y a l'IA. Et partout, l'informatique est au cœur de l'innovation.
Ce matin, on entend les salariés du site qui ont envie d'y croire, mais qui disent, attendez, c'est pas vraiment notre métier. Nous, on fait de l'électroménager, des fours. On n'est pas spécialiste des drones et des lunettes connectées. C'est possible de faire les deux au même endroit, ou c'est la fin de Brandt telle qu'on l'a connue et ça devient une entreprise de drones?
Non, mais c'est marrant parce que, en fait, comme vous le savez, Brandt, c'est une histoire française, en fait. Mmh. Ça fait partie de l'histoire de France. Comme Thomson, 100 ans pour Brandt, 132 ans pour Thomson. Et en fait, il y a toujours eu de l'évolution technologique. Brandt s'est jamais limité, en fait, à une seule gamme de produits. Si on regarde dans l'échelle du temps, tout a été fait en Brandt, en électronique. Pareil pour Thomson. Donc, on peut pas rester, en fait, sur un domaine qui n'a pas marché. Seulement, il faut, en fait, savoir continuer ce qui marche et est rentable. Et par contre, additionner des nouvelles familles. Parce que derrière, les clients sont là. Moi, j'ai un soutien vraiment énorme en fait de la grande distribution, parce qu'on me connaît depuis 30 ans. Moi-même, j'ai fait partie du groupe PPR, j'étais directeur achat chez Surcouf. Franchement, je sais de quoi je parle. Et quand j'entends en fait d'autres intervenants qui expliquent que oui, mais faut prendre son temps. Oui, ok. Alors c'est bien de prendre son temps, mais moi je travaille jour et nuit. Et effectivement, le maire d'Orléans croit beaucoup dans le projet.
Vous avez vu hier aux côtés de Serge Grouard, le maire d'Orléans, pour faire cette annonce. On a bien compris que les élus locaux, le maire d'Orléans était à fond de votre côté. Mais est-ce que vous avez le soutien de l'État, de Bercy ? Parce qu'à Bercy, on se dit beaucoup plus prudent sur votre offre de rachat partiel. On rappelle qu'il y a une procédure, un appel d'offres qui doit être lancé en janvier, que tout doit être ensuite validé par le tribunal, qu'il peut y avoir d'autres offres, etc. Il y a un peu de scepticisme aussi autour de votre annonce comme ça, surprise du 24 décembre.
Non, je pense pas qu'il y ait du scepticisme. Il y a de la réglementation. Il y a une obligation. Et moi, effectivement, j'ai rencontré le ministre, Sébastien Martin, et il est obligé de respecter la loi, c'est évident. D'ailleurs, c'est le liquidateur qui va décider. Et donc, il y aura un appel d'offres. La plupart aujourd'hui, en fait, sont en train de proposer des rachats de marques ou des choses comme ça. C'est un peu du saucissonnage.
Mais l'État pourrait se positionner, apporter son soutien à un dossier.
Non, franchement, ils l'ont apporté. Après, derrière, est-ce qu'ils ont le droit de se positionner en fait que sur un seul dossier? Non. Ils vont évidemment en fait regarder ce que le liquidateur va décider et en fonction aussi étudier en fait les offres. Le problème, c'est le temps. Et moi, je peux vous dire ce que je suis en train de faire en ce moment-là. Et j'ai déjà en fait des enseignes. Je vais avoir des courriers, des présidents d'enseignes qui expliquent en fait que la meilleure société positionnée, c'est la nôtre.
Pourquoi ?
Parce que, je vais citer par exemple, moi j'ai rendez-vous avec la direction d'Electrodépôt, qui sont extrêmement contents, ravis en fait que quelqu'un qui s'y connaît du métier puisse reprendre la marque, parce que si demain on met à la tête en fait d'une nouvelle société, parce que ce sera une nouvelle société, il n'y a plus de Brandt, je le rappelle.
C'est fini. Terminé.
La liquidation a eu lieu. Oui. Et là, il y a des appels d'offres, effectivement, pour que soit un projet industriel, qui est le mien, qui est appuyé, en fait, par le maire, la région et l'État qui m'a reçu, mais qui ne peut pas se limiter à un seul projet, en fait, à l'étude, en fait, tout va être étudié, mais évidemment, franchement, je suis le mieux positionné parce que je sais de quoi je parle. Ça, moi, j'ai repris Thompson.
Ce sera au tribunal de Trochet.
Non, ce que je veux dire, c'est que j'ai repris Thompson il y a 14 ans. Le modèle industriel, il était perdu déjà. En fait, donc j'ai montré après 14
dans
ans.
Dans l'informatique, oui.
Ben, évidemment, dans l'informatique, c'est le plus dur. Donc imaginez, il y a plus de marge dans le gros électroménager. Dans les produits connectés, il y en a encore plus. On peut faire plein de choses, mais il faut le faire bien.
Mais c'est message presque citoyen que vous envoyez, patriote, de dire j'ai sauvé déjà une boîte française dans l'informatique, je vais faire la même chose dans l'électroménager.
Moi,
c'est ça
je vais
que
le dire, j'en ai ras-le-bol qu'en France, on ne comprenne pas qu'il faut donner les boîtes à des spécialistes, pas à des gens qui théorisent. Pas des gens qui pensent que en saucissonnant, vendant les marques à droite, vendant les actifs, on peut réussir une France. On va dépecer la France. C'est ça qu'on veut. Ou est-ce qu'on veut des chefs d'entreprise qui s'intègrent dans un schéma qu'ils connaissent pour réussir? Voilà, c'est le seul message que j'ai à donner et j'ai rien d'autre à dire. Qu'ils étudient la meilleure offre, qu'ils apprennent, mais que derrière, que les emplois soient conservés pour un long terme.
C'était ma dernière question justement. J'entends votre coup de gueule justement sur la stratégie industrielle en France, mais quel message vous adressez aux salariés de Brandt qui ont forcément, pour lesquels l'espoir renaît depuis hier? On parle d'une offre partielle, 150 salariés, il y a 700 salariés en tout qui ont subi cette liquidation.
Alors, très honnêtement, pour avoir les chiffres, c'est 318 salariés sur Orléans, tout à fait, et mon objectif c'est 150 en 2026 et d'en prendre plus dès que je peux. Dès que la rentabilité le permet, c'est inscrit dans le plan. Donc c'est pour ça qu'en vérité on est plus sur 150, 250 voire plus. Pas si affinité, s'il y a résultat. Moi, je veux dire aux salariés de l'entreprise, c'est très important, que si mon projet passe, eh ben ceux qui voudront, avec une bonne volonté, rentrer dans l'entreprise nouvelle, le New Brandt, deviendront actionnaires de la société au bout de 5 ans. C'est mon schéma. Et si on faisait ça en France, on n'aurait pas de problème avec les syndicats, avec les gens qui ont envie de rester chez eux. En vérité, il y a un schéma nouveau. Il y a des soutiens qui sont en train d'arriver. Vous voyez, j'avais un petit message de Xavier Bertrand hier, très gentil, en disant « J'ai envie d'entendre votre nouveau schéma de réindustrialisation. » C'est quelqu'un qui se positionne au niveau national. Et c'est quelqu'un qui, évidemment, est très ouvert à la conversation parce que derrière, il a compris que si on ne fait pas appel aux spécialistes, la France va mourir. Vous ne voyez pas ce qui se passe.
On le voit tous les jours, on en parle tous les jours. Alors, c'est pour ça que c'est important de vous entendre.
Alors, merci beaucoup de me donner ce temps d'antenne, mais soit on va dans un schéma de réussite face à la concurrence internationale, on redevient des vendeurs et on fait ce qu'il faut pour que ce soit rentable. On ne va pas réinventer, avec un euro aussi fort, on ne va pas usiner toutes les pièces, c'est fini, terminé.
C'est un nouveau Brandt que vous proposez, on l'a bien entendu. Je vous remercie Stéphane Français, un dernier mot.
Oui, s'il vous plaît, en vérité, aujourd'hui, on peut réussir, mais il faut une volonté générale d'aller vers les spécialistes et pas les théoriciens.
On a entendu votre coup de gueule et la défense de votre dossier, de votre candidature, votre dossier de reprise, votre offre de reprise partielle de Brandt ce matin. Stéphane Français, patron pour l'instant de Thompson Computing, mais peut-être à l'avenir donc du nouveau Brandt, comme vous nous l'avez présenté à l'instant. On verra. Il y a l'appel d'offres, toute la procédure. Ça sera au tribunal de trancher. Mais merci d'être venu le défendre ce matin de Noël
merci
en direct sur RMC. Il est 8h25. Tout de suite, on va se détendre, on va sourire parce que vous savez qu'Arnaud Demanche a pris quelques jours de vacances. Il revient en pleine forme à la rentrée. Mais pour fêter Noël, on vous a concocté le meilleur d'Arnaud Demanche. C'est tout de suite.
Allez, un petit peu de douceur. Le parc Astérix qui va ouvrir ses portes en Allemagne.
Ah, Astérix, là. Pour une fois qu'on arrive à exporter un truc aux Allemands. Alors, ce sera le parc Astérix, comme en France, mais avec des clients qui ont du pouvoir d'achat.
Ah oui,
il va changer beaucoup de choses. Ils adorent Astérix en Allemagne. Et c'est vrai qu'Astérix, avec sa moustache jaune, son casque, son pantalon rouge, tu lui rajoutes des bretelles, c'est un petit bavarois. Alors, dans la version allemande, il y a quand même des différences.
Olixia, nous devons aller à Rome. Fini de tailler ton menhir.
Bien, j'arrive, Astérix. Je ne taille pas un menhir, je détruis un mur à Berlin.
Idée fixe.
Kommen-Sie. Oh, Idéfix, petit bébé, mon berger allemand de 130
kilos. C'est ça, il avait pas la bonne Idéfix,
je ne sentais pas, voilà. Allez, Obélix, enfile tes sandales chaussettes. Je vais voir le druide pour qu'il me donne une ration de choucroute magique.
Je peux en avoir.
Non, tu es déjà tombé dans le tonneau de schnapps quand tu étais petit.
Alors Emmanuel Le Chypre, qui connaît bien l'Allemagne, m'a dit, il y a même des albums spéciaux pour les Allemands, qui sont des gens plus rigoureux que nous. Ils ont fait Astérix travaille jusqu'à 68 ans.
Ah oui.
Astérix à la bourse. Astérix fait du nudisme sur la plage à Dresde. Oh. Le prochain album, c'est Astérix construit des voitures de qualité. Ça change de chez nous.
Mais c'est un juste retour des choses, le parc Astérix en Allemagne. Parce que nous, on a déjà un parc qui célèbre les Européens blonds aux yeux bleus. On a le Puy du Fou. Et ben, eux, ils feront l'inverse. Voilà.
Emmanuel Macron a annoncé l'interdiction des téléphones portables au lycée.
Ouais, dit comme ça, ça a l'air vachement simple. Hein. Il dit, on va faire comme ça, et hop, c'est fait. Alors que dans les faits, ça s'annonce quand même très difficile. Il doit rêver de faire tout comme ça. Il doit rêver de faire la même chose avec la drogue. Il ira voir la DZ Mafia. Bonjour les frérots. Dites donc, la drogue là, c'est pas bien. Maintenant, c'est interdit. C'est pas bon pour les jeunes. Oh, t'es sûr de toi le sang? C'est pas bon pour la jeunesse? Putain, merci le boss, on n'y avait pas pensé. C'est bon, on arrête, c'est bon. Le deal, c'est fini. On va faire de la pâtisserie, le sang. Vous êtes d'accord, l'équipe? Ouais, on va faire des éclairs au café, le boss. Merci de nous avoir, merci de nous avoir ouvert les yeux sur les ravages des stupéfiants, monsieur le président. Tiens, bon, le sang. Tu veux pas faire un troisième mandat?
Brigitte, j'ai fait un rêve formidable.
Ah ouais, et c'était encore un rêve avec Mbappé? Mais non, enfin, Brigitte, arrête avec cette histoire. Le service militaire, pas de portable à l'école, Macron est clairement nostalgique de la France des années 80. Hein. J'ai peur de ses prochaines annonces.
Française, français, j'ai un cancer et une fille cachée. Alors appelez-moi Dieu. J'ai aussi demandé à France Télévisions le retour de Stéphane Collaro et des Coco Girls à la télé. Chaque soir, elles chanteront « Ce mec est too much, ce mec est trop ». Je ferai aussi passer une loi pour interdire les écrans plats parce qu'on ne peut même pas poser de napperon dessus. La France sera aussi pionnière sur le Minitel et Thierry Hazard sera nommé ministre de la Culture. Et dernière chose, je réintroduis le septennat. Du coup, je reste encore 4 ans. Voilà, ah oui, c'est too much, ah oui, c'est trop. Allez, à demain.
Arnaud Demange, que vous pouvez réécouter aussi quand vous voulez, évidemment, en podcast sur l'appli RMC. On se retrouve dans moins d'une minute pour la météo et le journal de 8h30 avec à la une la neige qui s'invite en ce matin de Noël.
RMC jusqu'à 9h.
RMC 8h30.
RMC, Apolline Matin.
Votre journal en direct avec Rachel Saadodine. Bonjour Rachel.
Bonjour Charles, bonjour à tous. Bretagne, Pays de la Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, la neige s'invite dans ce matin de Noël formant un joli manteau blanc. Mais attention tout de même aux glissades si vous comptez prendre la route aujourd'hui. La sécurité au volant, ça passe aussi par une réforme. Dès lundi, les très grands excès de vitesse pourront vous coûter cher, jusqu'à 3750 euros d'amende. Une offre de reprise, enfin, elle est officielle, elle a été déposée hier pour l'usine Brandt d'Orléans. Le patron de Thomson Computing propose de sauver 150 des 350 emplois.
Et donc, ce Noël est un Noël blanc. La neige s'invite au programme ce matin.
Oui, il a neigé en plaine, en Auvergne-Rhône-Alpes, en Bretagne, dans les Pays de la Loire. Charlène en parlait à l'instant. Et c'est de là, des Pays de la Loire, justement, que nous a appelé Emmanuel ce matin au 32-16. Cet agriculteur vendéen profite du joli manteau blanc laissé par les flocons dans son jardin.
C'est la magie de Noël. Ça, c'est sympa parce que j'en connais plein qui vont au ski tous les ans et qui galèrent parce qu'ils n'ont pas de neige à Noël. Ben là, impeccable. Les pelouses sont recouvertes d'un petit manteau blanc tout léger. Cette nuit, quand on est rentré, tout le monde regardait les téléphones. Il va neiger. C'est la magie de Noël pour nos enfants. Quand elles vont se réveiller, je peux vous assurer que ça va... Je pense que ça va être la neige avant les cadeaux. Ça va être le côté sympa. Ouais, je pense qu'il faudra pas qu'elle se jette dedans parce qu'elle risque de se faire mal. Mais ça va être vraiment le côté sympa quand même.
La neige, c'est joli bien sûr, mais ça peut aussi être dangereux sur les routes. Plus aucun département en vigilance orange neige verglas ce matin. Mais certains segments peuvent tout de même rester glissants. Les conseils d'Éric Gallardo, professionnel du pilotage automobile sur glace.
Si déjà on n'est pas équipé des pneus adéquats, la première chose c'est ne surtout pas sortir. Si effectivement on est équipé de pneus neige, dans ce cas-là, même si la prudence conseille quand même de rester à la maison, mais on peut toujours évidemment prendre la route en anticipant beaucoup les événements qui vont se produire et donc d'évoluer avec beaucoup de douceur. Il faut projeter son regard très loin et imaginer à chaque fois quels vont être les éventuels imprévus qui vont pouvoir survenir.
La prudence de mise au volant. Attention aussi à ne pas trop appuyer sur l'accélérateur. Dès lundi, si vous roulez à plus de 50 km/h de la vitesse autorisée, vous risquez une peine de prison allant jusqu'à 3 mois. Et 3 mois de prison donc et une amende pouvant grimper jusqu'à 3750 euros. Ces très grands excès de vitesse deviennent un délit, une mesure radicale que justifie Marie-Pierre Vedrenne, la ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur, était l'invitée d'RMC ce matin.
Ce type de comportement peut conduire au pire drame. Donc il était important de faire évoluer la législation. C'est pas des comportements anodins. Donc oui, il était nécessaire de faire en sorte qu'on passe d'une contravention à un délit. C'est-à-dire que oui, maintenant, toute personne sera susceptible d'avoir peut-être une peine de 3 mois d'emprisonnement ou de 3 750 € d'amende. C'est un comportement qui est gravissime. Et nous avons voulu adapter la sanction parce que c'est une gravité des faits et parce que nous voyons une recrudescence de ce type de faits. Et c'est pas une simple infraction. C'est la mise en danger de soi-même et c'est la mise en danger des autres à travers des très grands excès de vitesse.
8h34 sur RMC, regain de tension entre la France et l'Algérie.
Après le vote par le Parlement algérien d'une loi criminalisant la colonisation française, Alger réclame des excuses officielles, une initiative qualifiée d'hostile par Paris. Surprise générale chez Brandt, une offre de reprise a été déposée publiquement hier par Stéphane Français. Le patron de Thomson Computing veut récupérer l'usine d'Orléans et 150 de ses 350 salariés. Pour le moment, rien n'est fait. Et si le projet aboutit, il faudra tout de même s'adapter, comme l'explique Anaïs Voigilis, spécialiste de la réindustrialisation.
Le marché de l'électroménager est extrêmement concurrentiel. Il y a certainement de la place pour des produits made in France, peut-être haut de gamme, peut-être sur des tailles de produits différentes. Mais ça s'étudie. Si c'est pour refaire des produits qui sont produits ailleurs en grande série à prix très compétitif, il va falloir avoir des investissements industriels importants pour automatiser et essayer de se rapprocher du prix chinois. Et donc ça pose tout aussi la question du modèle industriel qu'on veut défendre en France. Faire de l'électroménager en France est important. Maintenant, la réalité du marché est que le consommateur ne suit pas forcément.
Les agriculteurs mobilisés sur l'A64 ont passé le réveillon de Noël sur leur barrage et ils s'y réveillent d'ailleurs aussi ce matin. Cela fait déjà une dizaine de jours que les manifestants campent à Carbonne en Haute-Garonne en opposition à la politique d'abattage massif en cas de dermatose nodulaire contagieuse.
À Marseille, Notre-Dame de la Garde a de nouveau célébré Noël.
Oui, hier soir c'était la première messe de Noël depuis la fin des travaux de rénovation et pour l'occasion les Marseillais sont venus très nombreux à Anna Jojard.
Il y avait tellement de monde sur les bancs que beaucoup ont assisté à la messe debout. Parmi eux, nombreux sont ceux qui venaient pour la première fois.
Pourtant, j'ai toujours vécu à Marseille, mais c'est la première fois.
Nos familles sont un peu éparpillées à droite à gauche pour cette soirée, donc on a pris la décision de venir passer le réveillon ici.
Ça me paraît important. C'est un moment en famille, c'est un moment festif.
Un moment collectif où les Marseillais ont pu admirer de près la bonne mère rénovée.
Ah, elle est rayonnante, elle est magnifique. Ça fait plaisir de la voir comme ça.
Elle est toute belle maintenant, donc gardienne de Marseille et de tous les Marseillais, et voilà.
Et c'est d'ailleurs spécialement pour voir la basilique que Christelle et sa mère Eliane sont venues.
C'est pas tant pour la religion, parce que je suis plus athée que chrétienne, mais c'est par ce qu'elle représente pour Marseille. Hein.
Qu'on soit catholique, musulman ou même... le monde, Notre-Dame, c'est Notre-Dame de la Garde.
Ouais. Et ces deux Marseillaises l'affirment. Ici à Marseille, la bonne mère, c'est un peu comme la Tour Eiffel à Paris, mais en un peu mieux quand même.
Oui, bon, à Paris, on a la Tour Eiffel et le PSG. Et ce matin, on a décidé de revenir sur l'année XXL du club parisien.
Oui, les footballeurs sont pour le moment en famille. Ils se reposent, comblés, hein, c'est sûr, à n'en pas douter par les 6 titres qu'ils ont décrochés cette saison. Valentin Jamin, c'est du jamais vu pour un club français.
Oui, avec en apothéose le sacre tant attendu en Ligue des Champions, la première de l'histoire du club.
Avec Doué, Doué, faut y aller, Doué ! Paris sur le toit de l'Europe, 14 ans d'attente pour les propres.
Paris a dominé le continent en gagnant aussi sa première Super Coupe d'Europe, puis la Coupe Intercontinentale il y a 8 jours. Le défenseur Nuno Mendes salue cet excellent bilan.
C'est une fierté, bien évidemment. Nous, on est là pour faire l'histoire dans le club. Chaque année qui passe, je pense qu'on est plus conscient qu'on est en grande équipe. C'est notre mentalité, c'est la mentalité des vainqueurs.
Avec la Coupe de France, la Ligue 1 et le Trophée des Champions, cela fait donc 6 titres en 2025. Seuls Barcelone et le Bayern Munich l'avaient déjà fait. Et ce collectif a porté Ousmane Dembélé vers le Ballon d'Or.
Ça clôture une très belle année où je pense qu'on a dominé le football mondial et gagné un ballon d'or, c'est exceptionnel.
Le tout grâce à l'harmonie trouvée par l'entraîneur Luis Enrique.
Si on pense seulement à l'année naturelle de 2025, c'est clair que c'est historique pour les clés, pour les Parisiens.
Le seul couac, c'est une défaite en finale de la Coupe du Monde des clubs contre Chelsea et il faudra attendre 2029 pour essayer de soulever ce trophée.
C'était le journal de Rachel Saadodine. Merci Rachel. 8h38 sur RMC. On continue de fêter Noël ce matin tous ensemble au 32-16 avec Eric qui nous appelle de l'Isère. Bonjour Eric.
Oui, bonjour Charles. Joyeux Noël à tout le monde.
Joyeux Noël Eric. Où êtes-vous ce matin?
Eh bien moi je suis à l'Alpe d'Huez, au pied des pistes.
Ah génial.
Et je vais essayer d'égayer cette journée de Noël pour nos clients à l'école de ski. Et donc, on va essayer de les amener faire du ski tranquillement.
Ah, vous êtes moniteur de ski, Eric ?
Voilà, c'est ça. Pendant mes vacances, moniteur de ski et grutier sur des grues mobiles le reste de l'année.
Ah oui, grutier le reste de l'année et l'hiver. Et là, ça y est, vous avez enfilé la parka rouge là, à 8h39?
Et voilà, on a mis la tenue rouge, on est au pied des pistes et on attend les clients tranquillement pour leur faire un beau cadeau en ce jour de Noël.
Ah bah génial, il y a de la neige à l'Alpe d'Huez là ?
Il y en a un petit peu, oui. Bon, on préférerait en avoir un peu plus, que ça arrête de tomber sur le pont de Millau, tout ça, mais on en a encore un peu.
Ok, mais c'est génial. Et vous avez pu réveillonner hier soir, je sais pas, peut-être avec les collègues,
oui, en famille. Ils sont venus de Toulouse, donc on a fait un petit repas avec un peu de pâté jaune, et puis voilà, tranquillement.
Oui, pas d'excès, parce que ce matin, donc, à 8h sur les pistes...
Ah, ben voilà, il faut y aller, puis il y a un peu de vent, là, ce matin, donc...
Bah,
ça
courageux.
Va être un peu frais.
Au boulot, Eric, moniteur de ski, c'est génial. Bah, on prend un peu de hauteur avec vous ce matin. Bah, on vous souhaite de la neige, si j'ai bien compris. Eric, du côté de l'Alpe d'Huez, moniteur de ski, joyeux Noël à vous. Merci d'être passé par le 32-16. Il est 8h40 sur RMC. Et on passe au choix de la rédaction avec vous, Pierre Bourgès, correspondant à Bordeaux pour RMC. Bonjour Pierre.
Bonjour Charles.
On en a beaucoup parlé ces derniers jours. Pour la première fois en France, pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, la France a enregistré cette année plus de morts que de naissances, selon l'Institut national d'études démographiques. La natalité est en berne. Conséquence, le secteur de la garde d'enfants est en souffrance. Ce matin, Pierre, vous nous parlez des assistantes maternelles, premier mode de garde d'enfants, mais aussi le plus touché par ce phénomène.
Elles ont perdu la garde de près de 16 000 enfants par rapport à 2022, selon l'Observatoire national de la petite enfance. C'est le mode de garde qui perd le plus de petits et c'est de pire en pire.
L'année dernière, déjà, j'ai mis un petit peu de temps à remplir, mais là, vraiment, il n'y a pas d'appel.
Je vous présente Jessica Carré. Elle est assistante maternelle depuis 13 ans à Bergerac, en Dordogne. Et cela fait près de 3 ans que les contrats de garde d'enfants sont de plus en plus difficiles à trouver.
On a des sites de nounous, nous, on va chercher les contrats ou... Voilà, on est en lien avec des parents et il n'y a pas de demande. Là, vraiment, on sent la précarité. Je la ressens cette année, vraiment. Je trouve que c'est très alarmant et moi, je me dis que peut-être que dans les 4-5 ans à venir, il faudra que je fasse une reconversion, quoi. C'est une déception parce que c'est vraiment mon travail, je l'adore.
Et depuis novembre, elle cherche déjà des contrats pour l'année prochaine, ce qu'elle ne fait jamais aussitôt d'habitude.
Et ça veut dire qu'il y a de moins en moins d'assistantes maternelles?
Oui, en 2024, elles étaient 218 000 en France, 4% de moins qu'en 2023. La baisse de natalité est l'une des raisons qui pousse les assistantes maternelles à se reconvertir. C'est le cas de Mélanie Camier, qui entame une formation pour devenir sophrologue dès l'année prochaine. Déjà cette année, elle n'a que 2 enfants sur ses 4 places disponibles.
J'ai quand même à perte, je vous dirais, la moitié d'un salaire. Je me suis acheté quand même ma maison en guise de mon travail, avec une nurserie, une cuisine, une salle de jeu.
Coût de l'opération 210 000 euros avec 67 000 euros de travaux. Tout ça, eh bien, il faut le rembourser. Alors pour l'instant, la seule solution, c'est de se serrer la ceinture.
Je me suis mis à faire ma lessive de moi-même. Je me suis mise à faire attention à mes dépenses. Je prends beaucoup d'anti-gaspi, des choses comme ça. On n'a pas trop le choix, quoi.
Et il faut bien comprendre que pour Mélanie, c'est une vraie désillusion. Encore l'année dernière, elle n'avait aucun problème à trouver des contrats de garde.
Je suis partie dans l'optique où il y avait beaucoup d'enfants à garder. En plus, les enfants, c'est vraiment un domaine qui me plaît énormément. Et quand je vois qu'aujourd'hui, il n'y a plus de natalité, il n'y a plus de demande, on se projetait sur un avenir beaucoup plus long sur cette garde d'enfants. C'est vrai qu'à ce jour, moi personnellement, ça me met un coup.
Et malgré sa baisse de salaire, Mélanie a assuré aux parents qu'elle continuera de garder les 2 enfants qu'elle a jusqu'à la rentrée scolaire l'année prochaine.
Mais Pierre, c'est surprenant parce qu'on a tous dans notre entourage aujourd'hui quelqu'un qui se plaint de ne pas trouver de place en crèche, d'être sur une liste d'attente. Comment ça se fait ?
Effectivement, c'est paradoxal, mais c'est bien le cas. En moyenne, sur le territoire, il y a un peu plus de 60 places pour 100 enfants. C'est ce que l'on appelle le taux de couverture, mais ce taux, il augmente depuis quelques années. Traduction, il y a toujours des listes d'attente dans les crèches, mais elles sont moins longues. Et donc, les assistantes maternelles ne récupèrent plus ces enfants-là, regrette Audrey Bénard-Lessène, secrétaire générale de l'UNSA Pro Asmat, syndicat des assistantes maternelles.
Le premier mode de garde en France, c'est l'assistante maternelle. Mais on prône la crèche, mais on prône pas la SMAT. On se replie sur la SMAT parce qu'on n'a pas eu de place en crèche. Et on a même des parents qui ne nous disent pas qu'ils sont sur liste d'attente en crèche et qui, 6 mois après, nous disent « c'est bon, j'ai une place en crèche, au revoir ». C'est nous qui prenons les premières, la première ligne, c'est nous. Donc c'est pour ça que beaucoup d'ASMAT disent « mais en fait, je peux plus vivre correctement, donc je m'en vais ».
Le métier tente de se réinventer et a vu apparaître les MAM, les maisons d'assistantes maternelles qui leur permettent de mutualiser les coûts. Et avec la réforme des aides de la CAF pour le mode de garde en 2025, le coût de l'assistante maternelle va s'aligner sur celui de la crèche, un véritable coup de pouce pour séduire les parents.
Merci beaucoup Pierre Bourgès pour ce choix de la rédaction correspondant d'RMC en Nouvelle-Aquitaine. À 8h44, on en vient à l'épidémie qui risque de gâcher les fêtes, l'épidémie de grippe qui pourrait atteindre son pic dans les jours qui viennent. Dans ce studio, le docteur Benjamin Davido, bonjour.
Bonjour à tous.
Médecin, infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré en région parisienne. Comment éviter de tomber malade? Quels sont les gestes barrières à appliquer là, peut-être pour le déjeuner de Noël qui approche tout à l'heure? Vos conseils dans un instant sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin, RMC, c'était dans Face à Canteloup.
Jean-Louis Borloo qui est encore avec nous.
Mais je vais vous le dire, une chose, Apolline de Maire, le bordel est partout, même chez vous. Moi, j'ai mis 1h15 pour trouver votre studio. Et puis c'est géré par qui? Tu sais pas. T'as un directeur des rédactions, t'as un directeur général, t'as un président directeur général. Déjà général, c'est du beau, mais t'as en plus il est directeur général. Tu vois sa piche de paye, tu pleures. C'est pas fini ça, parce que ça appartient à un actionnaire.
Ah là là.
Dont le gars, c'est pas le métier. Le gars, il est marin, il est sur les bateaux. Le gars, c'est Captain Igloo. Arrêtez de ricaner là, bon fond, parce que Captain Igloo, c'est filmé, il vous voit, c'est le gars du direct.
Nicolas Canteloup revient sur RMC dès le lundi 5 janvier à 8h50. RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Charles Magnin.
Au RMC Story à la télé. Joyeux Noël à tous, d'abord à tous ceux qui viennent de se réveiller avec RMC. Même si ces fêtes de fin d'année pourraient être gâchées par l'épidémie de grippe qui ne cesse de s'intensifier, le docteur Benjamin Davido est avec nous ce matin. Rebonjour docteur, infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré en région parisienne. On nous parle beaucoup du pic de la grippe qui est attendu dans les prochaines heures, dans les prochains jours pendant les fêtes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Français... il y avait des clusters un peu partout hier soir en France pendant le réveillon, que les Français s'infectent en ce moment?
Alors, sans faire de pronostic comme la carte de météo, je ne suis pas certain qu'on aura le pic dans les jours qu'on nous a prédit, puisque le pic de grippe en général, c'est plutôt début janvier. Mais quoi qu'il en soit, en réalité, cette idée de pic, c'est une bonne image de l'ascension. Tout à l'heure, je vous entendais parler de la neige, de l'ascension de cette montagne, une augmentation forte du nombre de cas. Et vous avez raison, cette période des fêtes, en réalité, et on s'en souvient tous, on en parlera peut-être tout à l'heure du Covid, nous rappelle ces moments donnés un peu où on devait essayer de faire au mieux pour éviter de se contaminer lorsqu'il y avait la circulation d'un virus qui s'appelait à l'époque le Covid pendant cette période de pandémie. Et on a oublié en réalité la réalité qu'il y avait d'autres virus, d'autres maladies transmissibles. Et avant le Covid, il y avait la grippe. Et je vous assure, c'était pas beaucoup plus simple à l'hôpital. La mauvaise nouvelle, si je puis dire, c'est qu'en 2025, 5 ans après une pandémie, on fait pas mieux qu'avant.
Et pourtant, la ministre de la Santé, il y a quelques jours, disait... Il faut reprendre les réflexes, des gestes barrières. Pourquoi pas porter le masque dès qu'on a des symptômes? Si on a le nez qui coule, si on tousse et qu'on doit se réunir en famille, on porte un masque. Je suis pas certain que tous les Français aient porté un masque hier soir pour le réveillon. Là, il y a le repas tout à l'heure en famille du 25. Pourtant, il faudrait le faire, c'est ça? C'est impossible de réveillonner ou de fêter Noël tout à l'heure à midi en respectant les gestes barrières?
Non, je suis tout à fait d'accord avec votre remarque. C'est-à-dire que sur le fond, oui, il faudrait pouvoir se masquer lorsqu'on est symptomatique. Je pense qu'il faut d'ailleurs le faire, entre guillemets, toute l'année pour éviter de contaminer les gens. Comment on va se laver les mains si on a la gastro-entérite? La problématique, c'est que cette période, cette lune de miel entre le 25 et le 31, pour faire simple, et même un peu plus loin pour ceux qui ont des vacances en décalé, eh bien, elle n'est pas compatible avec le port de ce masque. Enfin, vous imaginez, vous allez prendre l'apéritif du 24 ou du 25.
On va pas manger avec un masque.
Bah, on ne sait pas le faire pour le moment. Oui. Peut-être qu'un jour, on trouvera une solution. Et faute de mieux, c'est pour ça, souvent, on nous dit qu'on est des vendus de laboratoire, mais c'est pour ça que nous on recommande le vaccin, parce que le vaccin c'est la seule arme qu'on a pour réduire la probabilité de tomber malade et surtout le forme grave et de se retrouver à l'hôpital. Parce que je suppose ceux qui nous écoutent, si demain après-demain leurs parents, leurs proches qui ont des maladies générales se retrouvent aux urgences, bah c'est pas une bonne nouvelle, surtout quand on est en vacances d'aller rendre visite à sa famille, à ses proches aux urgences.
Oui, mais là c'est compliqué. Si j'ai un enfant qui tousse un peu, qui a le nez qui coule, il faut que je lui dise de ne pas aller faire de bisous à ses grands-parents. Si je comprends bien, pour protéger les publics les plus fragiles, on ne met pas le bébé qui a de la fièvre dans les bras de ses grands-parents.
Alors en réalité, il faut surtout se rappeler des gestes pratiques et du bon sens. C'est ça qui prime et ce qu'on avait su appliquer très bien pendant le Covid, puisque la preuve, la pandémie s'est terminée. Il faut, je pense surtout dans ces situations-là, on ne peut pas mettre le masque, aérer les espaces clos. Ça veut dire quoi? Ça veut dire idéalement laisser ouvert 10 minutes toutes les heures, ou plutôt, je pense que ça c'est plus pratique, laisser un filet d'air pour renouveler l'air d'une façon continue dans la pièce. Parce qu'on a tous le réflexe en hiver, et c'est bien ça le problème de ces virus de l'hiver, de se dire ah ben il fait froid, attendez, mais qu'est-ce qui a fait un courant d'air? Et en fait, la problématique, pourquoi on se contamine, c'est parce qu'il y a des gouttelettes qui restent en suspension, et qui fait que lorsqu'on va parler, lorsqu'on va cracher, lorsqu'on va tousser, plus on va parler fort, on va chanter, on va laisser ces particules virales en suspension et souvent contagieuse. Vous avez raison, on l'oublie, mais la grippe, c'est pas tellement une maladie des sujets âgés. Le bout du bout, c'est les formes graves, mais la transmission, elle se fait essentiellement par les enfants. Et donc, la logique, sans parler de plan de table, c'est d'éviter de mettre directement en contact des enfants qui toussent, qui ont le nez qui coule, auprès de personnes fragiles. On n'a pas besoin d'être âgé pour être fragile. On peut être jeune, avoir un diabète, une hypertension, d'autres maladies générales. Et donc, il faut faire plus attention pendant cette période. C'est pas toute l'année, c'est vraiment cette période. Et il faut rappeler ce chiffre, 17 000 décès sur la santé publique France l'an dernier sur une grippe particulièrement virulente. L'enjeu, c'est de faire beaucoup mieux cette année. Et on espère que la couverture vaccinale avec un élan plus fort nous permette d'amortir ce fardeau.
Mais alors justement, cette année, on parle d'un variant K. Est-ce que la grippe est plus sévère, moins sévère, plus dangereuse, moins dangereuse que l'an dernier?
Je vous réponds, la grippe, sans avoir des phrases toutes faites, la grippe, il faut se rappeler, c'est une maladie qui tue en moyenne entre 9 et 10 000 personnes par an.
Mais 17 000 l'an dernier, c'est et 17... une année particulièrement meurtrière.
Absolument, et encore une fois, on pourrait rajouter une couche en disant, malgré 5 ans de pandémie et les milliers de morts qu'on a connues en France chaque année de la Covid-19. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut se méfier, sans mauvais jeu de mots, de la grippe comme de la peste. Et ce variant K, il n'est pas plus létal, ça, les données réelles, notamment au Royaume-Uni, le montrent, mais il est plus transmissible. Et Charles, vous allez très vite comprendre, une maladie qui est plus transmissible, arithmétiquement, peut créer plus de cas. Et c'est aujourd'hui ce qu'on voit, cette partie visible de l'iceberg, qui a un nombre important de contaminations. Et donc l'inquiétude, c'est de redescendre de cette montagne, de ce pic. Et ça, on sait que ça peut prendre un certain temps.
Et ce pic, il a des conséquences à l'hôpital. De plus en plus de patients. Est-ce qu'on arrive à un stade de saturation? On n'est pas encore au plan blanc, mais on nous dit que voilà, il commence à y avoir un afflux de patients. Est-ce que l'hôpital a de quoi faire face là, à ce pic de grippe dans les jours qui viennent?
Vous avez raison, l'enjeu finalement, sans être égoïste, d'abord il faut rappeler la grippe c'est 1 milliard d'euros chaque année. Il n'y a pas que l'hôpital, il y a aussi la consommation de soins en ville, la consommation de soins tout court, il n'y a pas que les morts, il y a les gens qui survivent, et puis peut-être on parlera, il y a d'autres complications que tout simplement avoir la grippe au sens propre du terme. Pour l'instant, l'hôpital tient le coup, je pense que l'hôpital tient le coup grâce à ses soignants, qui sont extrêmement solidaires.
Et qui sont mobilisés en cette période de fête.
Et qui sont remarquables, il faut le dire. Pour le moment, on n'est pas dans une situation de plombement, vous avez raison, on est dans une situation de tension, avec des situations de gestion de crise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'entre responsables logistique sur la grippe, sur le Covid, eh bien, on s'appelle régulièrement pour vérifier que le parcours logistique des patients se fait. Pour vous donner un ordre d'idée, en Ile-de-France, on est autour de 92-93% d'occupation des lits. C'est pas inhabituel, mais évidemment, s'il y a une accélération des contaminations après cette période, on va se retrouver dans une situation où il va y avoir un peu d'attente, pour faire simple. Et la problématique, c'est que l'hôpital ne peut pas s'arrêter en disant, cette année, on va s'arrêter de travailler parce qu'à la grippe, il faut réserver des lits pour la grippe. Et donc, on prend plus les chimiothérapies, on prend plus les gens qui avaient des examens, des opérations.
Il y a le reste de l'activité qui doit se poursuivre.
Exactement. Donc, c'est un plus. Ouais. Et pour faire simple, c'est entre 5 et 10% de passages supplémentaires aux urgences. Ça paraît ridicule, mais c'est 5 et 10% de marge de manœuvre en moins. Et donc, évidemment, c'est un problème à l'approche de ces fêtes.
Est-ce qu'il est trop tard pour se faire vacciner? Si on se dit, c'est bon, le pic est en ce moment, le plus dur est passé, je suis pas vacciné, mais j'ai pas eu la grippe, c'est pas la peine cette année de me faire vacciner. Ou est-ce qu'il est encore temps d'y aller là dans les heures qui viennent?
Alors d'abord, pour rappeler, pour ceux qui ne nous ont pas écouté au début de l'interview, je pense que le pic, il arrivera plutôt dans la première quinzaine de janvier.
Et donc il est encore temps, c'est encore important?
Il est encore temps, pourquoi? Parce qu'on est sur une phase d'attention, c'est pas moi qui le dis, sur les données de Santé publique France, on est sur une situation quasiment verticale des consultations pour syndrome grippal, notamment en ville, et on sait d'ailleurs qu'il y a un petit décalage entre la ville et l'hôpital. Il faut jusqu'à 14 jours pour avoir une efficacité maximale du vaccin. C'est pas un effet on-off, c'est-à-dire que vous commencez à stimuler votre système immunitaire à sécréter des anticorps. Et tant bien même, le pic, je me serais trompé, serait après-demain. Il va falloir redescendre de cette montagne de pics de contamination. Et ça prend globalement du temps. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit que la grippe est une maladie de l'hiver. Et vous voyez où je veux en venir. Ça veut dire qu'on a largement le temps d'ici février, mais plus on attend, moins on a de bénéfices. Et je terminais sur ce point, même si on a fait la grippe cette année et qu'on se dit, bah tiens, finalement, on a stimulé notre immunité naturelle, on n'est pas certain de mettre du filet, vous ne serez pas protégé contre la grippe B, celle qui circule, c'est la grippe A. Oui. Et en 2022, on a eu un précédent où il y a eu deux vagues successives, grippe A, grippe B, et on a vu des patients revenir à l'hôpital pour deux fois la grippe dans la même année, sans dire que c'est du jamais vu, c'est des situations évidemment à éviter.
Alors les patients, justement, quand on attrape la grippe, ça peut être une forme légère, j'ai envie de dire, on reste chez soi, on a de la fièvre pendant 4 jours. Dans les cas les plus graves, ça se termine à l'hôpital. Et puis, on découvre aussi que la grippe peut avoir des conséquences à plus long terme, plusieurs mois plus tard.
Absolument. La grippe, en fait, on l'oublie, mais c'est pas qu'une maladie du poumon. D'abord, vous l'avez illustré, ces formes, on va dire, symptomatiques, la grippe qui donne 40, qui donne des courbatures, tout ça. En fait, c'est un virus qui va toucher tous les organes. Il peut même donner des atteintes du foie, mais l'inquiétude, évidemment, c'est de plus en plus, on découvre des atteintes d'autres organes, et notamment des organes nobles, comme le cœur et le cerveau. Et beaucoup de données estiment qu'on a ce qu'on appelle un risque relatif, c'est-à-dire une probabilité, un sur-risque de 5 à 8 fois plus de faire un infarctus du myocarde dans les 30 jours passant un épisode de grippe, y compris d'accident vasculaire cérébral.
Mais dans les mois qui suivent, pas au moment de la grippe.
Tout de suite, dans les 30 jours.
Ah, dans les 30 jours qui suivent.
Okay. Dans les 30 jours. Et ensuite, bien évidemment, ces maladies, elles créent des séquelles à long terme, c'est-à-dire que ça crée en réalité une inflammation sur vos vaisseaux sanguins. C'est le cas pour d'autres virus avec des proportions différentes, celle du Covid, celle du VRS. Et donc on découvre petit à petit que l'idée de se dire, bah, finalement on n'est pas certain à mettre du filet, c'est terminé. En fait, il y a presque un capital santé, c'est-à-dire que ces problématiques, elles vont se répéter chaque année. Et pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, finalement, c'est pas anodin, ces grippes qui se répètent dans le temps et qui sont sévères, parce que l'enjeu, c'est de vivre mieux et plus longtemps.
Oui, donc même sans aller à l'hôpital, avoir la grippe pendant 4 jours tous les hivers, ça a
des conséquences sur l'organisme
à long terme. Dernière question, depuis tout à l'heure, on parle que de la grippe, on en a oublié le Covid, c'est fini le Covid ou on surveille toujours ?
Alors le Covid, c'est un animal difficile à dresser, si je puis dire. Pourquoi ? Parce que c'est pas un virus saisonnier et on se rappelle pas, mais depuis 2020, en fait, il a sévi très fort chaque été et il déjoue finalement tous les pronostics. On a l'impression, et d'ailleurs j'ai écrit un article scientifique l'année dernière dessus, qu'il est capable, en tout cas, d'entrer en compétition avec le virus de la grippe. On verra si c'est le même cas cette année. Mais vous conviendrez que l'hiver dernier, l'événement de cette grippe particulièrement forte a annihilé la circulation quasiment du virus de la Covid. Aujourd'hui, il circule à très très bas bruit. Après une saison d'automne avec une accélération forte, les fameux variants dit Frankenstein. Aujourd'hui, on est vraiment sur une grippe. Et donc, la problématique, c'est finalement le fardeau de ces deux maladies. Si schématiquement, tout le reste de l'année, vous avez de la circulation du Covid, et à l'hiver, boum, padaboum, c'est la grippe qui arrive, eh bien, on n'aura pas gagné grand-chose depuis la période de la pandémie.
Merci beaucoup, docteur Benjamin Davido, médecin infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré, d'être venu nous mettre en garde en ce matin de Noël. Oui, faites la fête, mais faites attention.
Et aérer. Profitez bien des bonnes fêtes et dans les meilleures conditions possibles.
Mais n'hésitez pas à aérer, à faire attention en cas de symptômes, notamment vis-à-vis des publics les plus fragiles. Et il est encore temps de se vacciner, c'était important de le rappeler ce matin en direct sur RMC, cette matinale de Noël. On va continuer d'ailleurs à être ensemble demain matin, évidemment, dans Apolline Matin sur RMC, en direct à la radio, à la télé. Dans un instant, la météo, le journal de 9h, et puis le meilleur des GG avec Alain Marchal et Olivier Truchot, tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin.